Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, je m'appelle Audrey Séron et bienvenue sur la fréquence Fort et Clair, le podcast des jeunes IHEDN. Pour ce nouvel épisode Fort et Clair, nous retrouvons Michel Séjean, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, directeur scientifique, entre autres, du Code de la cybersécurité aux éditions Lefebvre Dalloz. Bonjour Michel Séjean.
Bonjour Audrey.
Tout d'abord, d'où vous est venue cette passion pour le droit numérique et plus particulièrement la cybersécurité?
Quand j'ai passé le concours d'agrégation en droit privé et sciences criminelles, mon premier poste a été à l'Université Bretagne Sud, à Vannes et à Lorient. Mais la faculté de droit était à Vannes et il se trouve que l'UBS avait une stratégie très forte pour être identifié dans le paysage académique autour de la cybersécurité. Ils avaient donc créé un centre de cybersécurité avec des investissements importants. Il leur manquait un juriste dans ce centre et le président, à l'époque Jean Peters, m'avait demandé si je voulais rejoindre le centre. À ce moment-là, moi je n'y connaissais rien à la cybersécurité, je m'occupais de droit des obligations, droit de la responsabilité, droit des contrats, des matières classiques. Et quand j'ai assisté aux réunions là-bas, ça m'a passionné. Parce que c'était un droit qui est orienté vers les métiers, qui répond à des problématiques sociétales fortes. Et puis, c'est un droit qu'on comprend bien quand on voit les implications sur le terrain. Et ça me faisait sortir de la bibliothèque, et ça, c'était très important pour moi. Donc, ça m'a tout de suite plu. Et puis, ensuite, ça m'a permis de monter en compétences, puisque comme le domaine était nouveau, on pouvait trouver des financements pour avoir des formations. Donc l'UBS m'a par exemple financé pour pouvoir devenir auditeur à l'IHEDN à la deuxième session nationale Souveraineté numérique cybersécurité. Et ça, c'était un investissement formidable pour moi. Et une fois que j'étais rentré dans ce train-là, impossible d'en sortir parce que je n'ai pas envie d'en sortir.
Nous traitons aujourd'hui d'un sujet assez complexe. Pouvez-vous nous faire un rapide panorama pour nos auditeurs de la stratégie européenne en matière de cybersécurité?
Je peux faire un panorama de la stratégie, mais je ne vais pas faire un panorama des textes, puisqu'il y en a plus de 70 depuis 2014, en sachant que ces textes-là engendrent d'autres textes, puisque par exemple les directives doivent être transposées. Mais la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne, il faut la comprendre d'abord à la lumière de la légitimité de l'Union européenne de légiférer en la matière. Ce n'est pas évident que ce soit une matière de l'Union européenne. Mais finalement, le fondement qui a été trouvé dans les traités, c'est le fondement de la protection du marché commun. Mais pourquoi la cybersécurité est une question de marché commun? Parce que c'est un risque systémique, ce n'est pas un risque privé. Quand une entité, c'est-à-dire une entreprise, une administration, une collectivité, une association, un hôpital, que sais-je, est attaquée, ce n'est pas seulement cette entité qui est attaquée, c'est tout le réseau auquel cette entité est connectée. Et c'est un peu comme le virus, enfin la question sanitaire, un virus contamine au-delà des frontières. Même chose pour un virus informatique. Donc il était normal qu'on ne s'arrête pas aux frontières nationales pour gérer un risque systémique, c'est-à-dire un risque qui, lorsqu'il se réalise, peut mettre à bas tout le système.
Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à la montée en puissance de ces réglementations en matière de sécurité ces dernières années?
C'est la montée de la menace. Sa montée et sa diversification. Sa diversification et son intensification en termes de violence. C'est-à-dire que les attaques sont de plus en plus nombreuses parce que les moyens technologiques évoluent d'une manière qui les rend plus accessibles, moins chères donc pour les personnes qui voudraient en faire un mauvais usage. Et la montée en puissance des cyberattaques, de leur gravité leur complexification, tout cela a forcé finalement l'Union européenne à indiquer quels étaient les cadres dans lesquels on pouvait assurer la cybersécurité et puis aussi à créer des cadres de coopération policière et judiciaire. Avec Europol, Eurojust, on a, à cause du fait que le risque cyber est un risque systémique, et on doit garder cette idée en tête, parce que c'est elle qui est la clé de tout, les premiers volets de cette augmentation de la législation sont des volets qui concernent la coopération entre États. Et ensuite seulement des volets qui correspondent à la réglementation de ce qu'il faut faire à l'intérieur des entités.
Vous l'avez énoncé, on a donc plus de 70 textes réglementaires en matière de cybersécurité. Est-ce que cet excès de réglementation pourrait entraver, freiner l'innovation?
C'est difficile de répondre à cette question de manière tranchée. Il faut, je pense, faire œuvre de discernement en la matière. Pour résumer, je dirais que une bonne réglementation ou une bonne législation, c'est une législation qui permet à chacune et à chacun de prévoir ses droits et ses obligations. Et c'est pareil dans l'espace physique, c'est pareil partout. Ce n'est pas qu'une question de cybersécurité. Quand on peut prévoir ses droits et ses obligations, alors on est en situation de sécurité juridique. L'excès de réglementation peut porter atteinte à la sécurité juridique parce que, par exemple, pour pouvoir prévoir ses droits et ses obligations, il faut pouvoir accéder matériellement à la règle. Si la règle est dispersée partout, on a du mal à aller la chercher, à la rassembler pour pouvoir la comprendre. Et la comprendre justement parce qu'il ne faut pas simplement un accès matériel, il faut aussi un accès intellectuel à la règle. Ce n'est pas tout de trouver la règle applicable, il faut aussi comprendre ce qu'elle dit. Et donc pour ça, il faut que la règle soit écrite dans un langage compréhensible ou bien commentée dans un langage compréhensible par des universitaires ou des praticiens. Et puis enfin, après l'accès matériel et l'accès intellectuel à la règle, il faut que cette règle soit raisonnablement stable dans le temps, sinon on ne peut pas prévoir ses droits et ses obligations. Et donc, au lieu de regarder simplement la quantité de texte, il faut d'abord regarder si cette quantité permet de prévoir les droits et les obligations de chacun sur le cyberespace. Si c'est le cas, ben, ce n'est pas un problème. Mais si ça n'est pas le cas, eh bien, on a un gros problème, mais on pourrait avoir ce problème aussi avec très peu de texte.
Aujourd'hui, la règle prévoit-elle ces attaques? Est-elle suffisamment compréhensible, selon vous?
Elle manque beaucoup d'accessibilité matérielle. C'est d'ailleurs pour ça que à l'issue de la deuxième session de l'IHEDN, dans le rapport de comité qu'on devait rendre, on avait avec mon comité fait le diagnostic que la règle de droit en matière de cybersécurité était matériellement inaccessible parce qu'elle était dispersée dans 17 codes officiels, le code de la défense, le code de procédure pénale, le code pénal, bref, 17 codes, une centaine de lois non codifiées, une trentaine de législations européennes, les conventions internationales signées et ratifiées par la France, les règles extraterritoriales qui s'appliquent aux opérateurs français alors que ce sont des règles étrangères. Bref, on a rassemblé tout ça dans un corpus de règles existantes, hein, on n'a pas créé du droit, et ce corpus s'appelle le Code de la cybersécurité. Donc il y a un manque d'accessibilité matérielle. Puis il y a aussi un manque d'accessibilité intellectuelle parce que, objectivement, quand on n'est pas juriste, c'est vraiment difficile de comprendre ce qui se dit et ce qu'on doit faire. Donc là-dessus, les universitaires et les praticiens doivent commenter beaucoup les textes en langage courant pour permettre à chacun de se les approprier.
D'un point de vue très pratique, à quelles difficultés les organisations sont-elles confrontées lorsqu'elles doivent se conformer à ces nouvelles réglementations en matière de cybersécurité?
Je pense qu'il y a deux séries de difficultés. La première, c'est que quand il y a une réglementation nouvelle, elle se traduit par un changement des processus internes à l'entité. On doit changer la manière dont on fait les choses.
Combien de temps ça prend?
Ça prend beaucoup de temps. C'est d'ailleurs pour ça que les réglementations européennes ont deux délais. D'abord, celui d'entrée en vigueur. C'est le moment où la législation est officiellement adoptée et qu'elle ne va plus changer. Et puis ensuite, en général, 24 mois après l'entrée en vigueur, l'entrée en application. Et dans ces deux ans, il y a une sorte de période transitoire dans laquelle on laisse aux entreprises ou aux entités la possibilité de se mettre en conformité. Mais se mettre en conformité, ça veut dire changer tous ses processus internes. Ça veut dire parfois changer son matériel. Ça veut dire parfois créer des nouveaux postes. Ça veut dire créer donc de nouvelles fiches de postes sur des domaines sur lesquels on n'est pas forcément mûr. Et tous ces changements organisationnels coûtent aux entreprises, mais ils peuvent être vus comme un coût ou comme un investissement. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième série de difficultés, c'est que quel est le sens de cette législation nouvelle? Est-ce que c'est simplement de mettre en conformité comme si on faisait de la tuyauterie, en disant bah, il faut mettre ton tuyau ici, il faut le faire passer là? Et ça, c'est dépourvu de sens et ça tue les organisations parce qu'elles ont l'impression de ployer sous un fardeau. Ou bien, et là je reprends les travaux abondants d'une collègue, la professeure Marianne Frison-Roche, ou bien donc, cette nouvelle législation n'est pas que une mise en conformité, c'est aussi le fait d'atteindre ensemble des buts monumentaux, comme le fait, par exemple, d'atteindre la cybersécurité, qui est un but monumental qui dépasse les États, qui dépasse les entreprises prises isolément, mais ensemble, en changeant tous nos processus, on arrivera à atteindre un but monumental. Et donc, quand on a un sens à ce qu'on fait, le fardeau est plus léger, et quand ce fardeau permet de prévoir ses droits et ses obligations, je reboucle la boucle, alors certes, c'est laborieux de changer tous ces processus internes, mais on se dit que ça peut valoir le coup quand même.
On parle aujourd'hui de cyber-résilience, de cyber-solidarité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la cyber-résilience ?
La cyber-résilience, c'est un terme relativement récent. Il vient des sciences dures, pour la partie résilience, et en particulier de la science des matériaux, parce que la résilience, c'est la capacité d'un matériau, quel qu'il soit, à absorber un choc thermique, mécanique, chimique, et à reprendre sa position originelle après le choc. Quand on transpose cette idée-là aux êtres humains, dans leur traumatisme, ou qu'on le transpose aux entités, dans leur organisation, c'est pas exactement la même définition, parce qu'après un traumatisme, on ne reprend pas notre forme originelle, on se relève et on avance. Pour les entités, c'est l'idée selon laquelle le choc, en l'occurrence la cyberattaque, ne va pas impacter la continuité des activités. Alors, avant la résilience, avant l'idée de résilience, on avait une finalité en matière de cybersécurité qui était zéro attaque sur l'entité. On croyait que si on était conforme aux règles qui s'imposent en matière de cybersécurité, si on observait toutes les bonnes pratiques, si on était certifié de tous côtés, eh bien, on allait éviter les attaques sur l'entité. Et évidemment, ça a été une fiction. On le voit, les attaques, au contraire, ne cessent de se multiplier. Elles sont de plus en plus violentes, on l'a dit tout à l'heure. Donc maintenant, on a changé de finalité et je crois que c'est vraiment une excellente chose. La finalité, c'est la résilience et c'est l'idée que on embrasse le fait qu'il va y avoir des attaques et qu'il y en a plusieurs qui vont passer. On l'accepte pleinement. Mais on s'organise par des procédures internes, par des mesures techniques et des mesures organisationnelles pour que la continuité de l'activité ne soit pas impactée. Et donc, on est passé d'une finalité qui était zéro attaque sur l'entité à une finalité qui est zéro impact sur la continuité.
Quels sont aujourd'hui les défis spécifiques auxquels les entreprises doivent faire face pour maintenir un niveau d'exigence en termes de cyber-résilience ? Puisqu'on comprend bien qu'il faut investir et il y a un réel changement dans l'entreprise pour être cyber-résilient.
Les entreprises ont tendance à voir l'investissement en cybersécurité comme un coût au lieu de le voir comme un investissement. Et on peut les comprendre. Elles ont d'autres crises à gérer que la crise cyber et les autres crises peuvent également être fatales à la vie de l'entreprise. Donc, si on se met à la place d'une direction d'entreprise, on peut tout à fait comprendre que la cybersécurité ne soit pas la priorité numéro un, même si pour nous qui aimons la cybersécurité, on a tendance à se dire que ça doit être la priorité numéro un. Donc le premier obstacle, c'est un obstacle culturel, mais c'est aussi un obstacle de la complexité de la vie des entreprises et des entités de manière générale. Ensuite, je dirais que le pire pour une entreprise, c'est que elle ne doit plus seulement assurer sa cybersécurité. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, elle doit aussi assurer la cybersécurité de sa chaîne d'approvisionnement. À quoi sert d'être en cybersécurité soi-même lorsque on a un prestataire ou un sous-traitant qui va se connecter à notre système d'information pour, par exemple, faire une intégration logicielle ou pour faire je ne sais quelle opération. Et c'est à ce moment-là que le virus va passer parce que le sous-traitant ou le prestataire n'ont pas le même niveau de sécurité que soi-même. Le défi donc pour les entités, c'est de réussir à maîtriser leur chaîne d'approvisionnement pour que la chaîne d'approvisionnement ait le même niveau de cybersécurité que eux. Et ça, c'est difficile. Parce que si on le leur impose par contrat, les sous-traitants et les prestataires le vivent très mal et peut-être que parfois, ils peuvent aller trouver d'autres clients plutôt que de travailler pour vous. Donc, on ne peut pas toujours prendre ce risque.
Est-ce qu'il faudrait mettre, par exemple, en interne, comme un guide de conduite pour expliquer à ses sous-traitants comment fonctionner, comment se protéger ?
Il y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, je précise au passage qu'il y a une thèse de doctorat qui est en cours de préparation à la chaire cyber de l'IHEDN, qui est menée actuellement par Éloi Buisson, sur le risque juridique en matière cyber dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, il y a déjà un travail de recherche à faire. Et les travaux, je ne peux pas les dévoiler parce qu'ils ne sont pas encore soutenus et publiés, mais on peut voir qu'il y a un éventail de possibilités. On a par exemple le cas où les entreprises imposent à un sous-traitant, dans le cas des appels d'offres, un certain cahier des charges en matière de cybersécurité. Malheureusement, parfois, on peut louper des sous-traitants qui sont hyper compétents, mais qui ne sont pas très bons en cyber. Et puis aussi, on peut avoir des structures d'accompagnement. Et on a trouvé des écosystèmes comme dans l'aéronautique, où là, ils ont prévu qu'il y ait des institutions ou des organisations qui soient là pour, un peu comme des incubateurs, accompagner les prestataires et les sous-traitants pour que ces prestataires ou ces sous-traitants montent en compétences cyber aux frais du client lui-même. Et donc, il y a tout un éventail de possibilités intermédiaires entre la contrainte par le contrat et l'accompagnement par l'incitation.
Est-ce que pour une étude comparative, on pourrait s'inspirer de ce qui se passe en Allemagne ou dans d'autres pays européens au sein des entreprises sur ce point ?
Ce problème de chaîne d'approvisionnement, il est universel. Et d'ailleurs, il ne concerne pas que la cybersécurité. Souvenons-nous de la question du textile et donc de la question des droits humains. Quand cet immeuble du Rana Plaza s'est effondré au Bangladesh sur les personnes qui étaient souvent des femmes et des enfants et qui travaillaient dans des conditions ignobles pour fabriquer des t-shirts des grandes marques de prêt-à-porter de fast fashion, on est allé voir ces grandes marques en leur disant « Mais comment se fait-il que votre sous-traitant soit dans des conditions inadmissibles, illégales, insalubres, etc. » Et les grandes marques de répondre « Mais on ne savait même pas que ce bâtiment existait parce que c'est notre sous-traitant de rang 40. Et nous, on peut maîtriser les sous-traitants de rang 1, 2, 3, 4, 5, mais au-delà, ce n'est pas possible. » Et on leur a répondu « Si. » C'est possible et vous allez le faire. Ça s'appelle le devoir de vigilance. Et ce devoir de vigilance qui est maintenant assez fort en matière environnementale et de droits humains, il doit encore faire son chemin en droit de la cybersécurité. Mais c'est difficile parce que quand vous avez par exemple une caméra de reconnaissance faciale qui va avoir 300 composants et donc 40 sous-traitants différents qui vont peut-être venir de 10 pays différents, quel système trouver pour assurer son devoir de vigilance sans que le coût de cette vigilance soit supérieur au coût de construction de la caméra en question. Mais sauf que cette question-là, elle est la même pour tout le monde.
Et on aimerait avoir une réponse sur ce point.
Évidemment, les seuls qui n'ont pas de problème sont les moins 10 ans sociaux, ceux qui ne font aucun progrès en la matière et qui vendent pour des prix qui défient toute concurrence. Ce n'est pas forcément le modèle qu'on veut choisir.
Pour finir, comment envisagez-vous l'avenir de la réglementation en matière de cybersécurité ?
J'en reviens au sens de toute cette réglementation. Si on est capable de résumer le sens de nombreux textes à un cap, alors le fait d'avoir un cap fait qu'on évite que tous les vents soient mauvais. Vous savez, on dit souvent... Quand un bateau n'a pas de cap, tous les vents sont mauvais. Là, le fait de savoir qu'on va œuvrer pour atteindre, et je reprends encore ce travail incroyable de Marianne Frison-Roche, sur les buts monumentaux en matière de compliance, qui inclut la sécurité, mais pas la cybersécurité, mais pas seulement, le fait de dire on veut atteindre ensemble un but monumental, qui est la cybersécurité, un intérêt général, qui est trop grand pour être porté par les seules épaules de l'État et qui doit être réparti sur les épaules de toutes les entités qui ont une activité économique et donc une responsabilité, eh bien, le fait de savoir qu'on œuvre pour l'intérêt général et pour édifier quelque chose, ça, c'est l'avenir d'une bonne législation. Et ensuite, ça va être possible d'atteindre ce but monumental à une seule condition, c'est que grâce à cette législation, on puisse prévoir nos droits et nos obligations. Et donc, qu'il y ait une bonne sécurité juridique. Parce que s'il n'y a pas de sécurité juridique, ben, il n'y a pas de cybersécurité.
Merci Michel Sejon.
Merci à vous Audrey.
Et je rappelle que vous êtes professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université Sorbonne Paris Nord et directeur scientifique du Code de la cybersécurité. Retrouvez tous les podcasts de Fort Éclair sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. À bientôt.